Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Pour pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Je suis persuadée que nous avons beaucoup à apprendre de nos liens amicaux, dans nos façons de nous lier les uns les unes aux autres et d'aimer en règle générale dans toutes les sphères de la vie. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Alice Rebaud à l'occasion de la publication de son ouvrage « Nos puissantes amitiés » aux éditions La Découverte. C'est parti. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Bienvenue à la librairie pour parler d'amitié plurielle, c'est ça?
Oui, et d'amour au sens large, parce que pour moi, l'amitié est une forme d'amour.
Oh, comme j'adore t'entendre dire ça. Je pense que s'il y a bien quelque chose dont on parle tout le temps à l'affranchi, c'est ça, c'est de reconnaître en fait l'amitié, de redonner en fait ces blasons de noblesse à l'amitié, aux amitiés. D'ailleurs, c'est tout comme on a tendance à de plus en plus parler d'amour au pluriel, eh bien, je pense que les amitiés mériteraient aussi d'être plurielles.
Oui, d'autant que, enfin, moi, je considère vraiment que le terme et le mot d'amitié ou le mot d'ami, il est vraiment très mince, en fait, pour parler de modalités relationnelles qui sont en réalité très diverses et très vastes. On manque peut-être de vocabulaire pour dire certaines choses, dire certaines relations, mais c'est aussi la richesse de ces liens-là, de ces relations amicales qui peuvent être toutes extrêmement différentes, de l'ami d'enfance qu'on connaît depuis toujours à la personne qu'on voit juste de temps en temps pour faire un ciné, pour boire un verre, aux personnes auxquelles on parle au quotidien et qui nous accompagnent sur tous les moments de notre vie. Chacun de ces liens peuvent être qualifiés d'amitié et toutes sont aussi valables les unes que les autres.
Et c'est ça, on t'entend déjà voilà, traverser tout un panel de possibilités et c'est ce que ton livre va nous offrir tout au long de sa lecture, c'est vraiment d'aller chercher ces endroits d'amitié qui sont bien souvent, peut-être parfois invisibilisés, enfin souvent invisibilisés, mais aussi parfois ce sont des impensés, c'est-à-dire qu'on ne va pas réaliser l'importance en fait, de ces liens-là parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on ne les lit pas, parce qu'on ne nous les présente pas comme importants. Et une grande partie de ton livre va aussi nous permettre de comprendre et de re-entendre ces histoires de hiérarchie aussi dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, et notamment parce que, bon, évidemment, les amitiés ne sont que là pour valoriser le couple, n'est-ce pas ?
Oui,
on le sait bien.
Ce sont de simples salles d'attente. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont on nous présente généralement ces relations-là dans nos fictions, dans nos adages, dans nos conceptions modernes de nos vies intimes. L'idée que voilà, les amitiés ne seraient qu'une première étape avant de réellement se caser, être quand même un adulte bien sérieux et donc d'entrer en couple, d'investir tout son temps dans le couple romantique ou dans la quête du couple romantique et puis ensuite dans la famille avec tout tout ce que ça a de productif en enfant, en etc. Quitte à délaisser du coup sur le passage tous les autres liens d'intimité. Et ça, c'est vraiment notre obsession aujourd'hui pour l'amour romantique qui crée cette situation-là et qui fait que s'installe de facto une forme de hiérarchie plutôt artificielle, moi, je trouve, entre les liens d'amour et qui met vraiment... dans une place tout à fait secondaire nos liens d'amitié.
Il faut avouer que peut-être on est dans des générations qui commencent déjà en fait à changer ces liens-là de hiérarchie, enfin ou en tout cas évidemment tout est à prendre en contexte, les milieux sociaux, etc. Mais pour autant, il y a peut-être des petites choses qui bougent malgré tout. Mais quand on parle à des générations peut-être plus âgées que les nôtres, donc on va dire 30, 45 ans, quelque chose comme ça, au-delà, en fait, le couple a tellement pris toute la place, puis les enfants, qu'après, en fait, c'est là où on réalise que des amitiés ont été perdues et n'ont pas été reconstruites. Et il n'y a plus personne. Oui. Ça, c'est très triste, quand même.
Et quelques études sociologiques montrent d'ailleurs comment l'entrée en conjugalité nous isole, contribue à nous appauvrir en termes relationnels. Et l'arrivée du premier enfant aussi, comme tu le disais, entérine souvent les ruptures d'amitié. Pas uniquement par manque de temps, comme on pourrait le penser, mais il y a une sociologue qui s'appelle Claire Bidard qui montre que c'est aussi une forme de redéfinition des priorités, une forme aussi de changement culturel qui se passe à ce moment-là de la vie des personnes qui commencent à avoir des enfants, qui font qu'on a tendance à se refermer sur la cellule conjugale telle qu'elle est pensée aujourd'hui, donc cette famille nucléaire, un papa, une maman, deux enfants dans son pavillon individuel et donc un petit peu isolé du monde avec cette idée que aujourd'hui notre conception du couple moderne encourage à créer une forme de palissade symbolique finalement autour du duo amoureux, ce qui fait que on se coupe aussi de piliers extérieurs qui pourtant peuvent être vraiment essentiels à la fois. C'est très dangereux en fait de rentrer dans ce huis clos romantique avec plus aucun pilier affectif extérieur quand peut s'immiscer des situations de violence par exemple au sein du couple. On n'a plus aucun relais pour en sortir ou pour avoir quelques appuis pour pouvoir sortir de la relation. Mais au-delà des questions de violence, en fait, je crois que quand on est resserré comme ça et que notre vie ne s'est plus que resserrée qu'autour d'une personne qui est censée remplir l'entièreté de nos besoins, parce que c'est quand même ce qu'on demande aujourd'hui à nos partenaires romantiques, et bien de facto on est à la fois extrêmement dépendant de la relation et puis on ne peut pas non plus vraiment la questionner, se demander est-ce que finalement moi mes envies elles ont pas un petit peu changé, est-ce que telle chose dans la relation elle me convient pas trop, est-ce que sur certaines choses j'ai envie de dire non, quand le risque c'est de tout perdre et de se retrouver seul, on ne s'engage pas finalement dans ces réflexions-là. Donc je crois que finalement apprendre à recultiver des constellations intimes plus variées, à continuer à garder nos appuis extérieurs au couple romantique ou à ne pas brûler toutes nos ailes finalement aussi dans la quête de l'amour, c'est aussi un grand bénéfice pour l'amour romantique en lui-même, qui je crois peut en être plus riche, peut se faire aussi plus libre et un peu plus élastique aussi.
Mais ce qu'on entend dans ce que tu dis, il y a aussi ce truc de se dire bon alors attention, à partir du moment où on est des adultes sérieux, en fait l'amitié encore moins important. Mais je trouve, et tu commences ton livre en questionnant ça aussi, mais d'où ça vient cette idée en fait que l'amitié n'est que pour la jeunesse, enfin comme si c'était nos rencontres par l'école, par nos cercles de extrascolaires, nos activités, etc. Alors oui, là il faut qu'on fasse collectif, on sait bien qu'on soit mis ensemble, les crèches, les choses comme ça, et puis qu'à un moment donné en fait c'est comme si on n'en avait plus besoin, comme si notre construction s'était arrêtée et que l'altérité en vrai il fallait pas trop s'en approcher, quoi.
Oui, mais encore une fois je crois que c'est cette construction qui a été faite autour d'une forme d'obsession pour l'amour romantique qui a créé ça, avec cette séparation qui se fait au moment de l'entrée à l'âge adulte et au moment où on peut commencer justement à créer un foyer, à créer une descendance, etc. Une dichotomie qui est créée entre les liens qui sont considérés comme productifs, Donc les liens conjugaux, les liens familiaux, biologiques qui vont voilà, créer, enfin, produire des héritiers, des petits travailleurs, des futurs petits travailleurs, du travail domestique gratuit également. Et puis à côté, les liens que de facto la société veut classer comme des liens improductifs et donc dispensables, que sont les amitiés, puisque moi là, dans l'ouvrage, je raconte des personnes qui vont s'engager à nouveau dans leurs amitiés, créer des projets de long terme, parfois d'habitat, de parentalité, mais en réalité, au quotidien, nos amitiés, ce sont plutôt des liens qui servent à rien, qui souvent ne servent rien non plus, qui peuvent se faire un peu oisifs, qui n'ont pas de but précis et qui ne produisent rien. Et donc, je crois que c'est une menace en réalité pour la société capitaliste, patriarcale, avec cette idée aussi qu'il ne faudrait pas trop s'éparpiller en dehors du foyer, et notamment pour les femmes, qu'il ne faudrait pas trop perdre son temps à papillonner en dehors du domicile et des tâches qui leur sont attribuées au sein du domicile, tâches domestiques et tâches éducatives. Et donc, les liens amicaux, qui sont des liens de l'extérieur, sont voilà, des menaces justement à cet ordre-là.
Mais ce qui est appréciable, c'est que c'est vrai qu'on a vu paraître des livres, des podcasts, des choses sur l'amitié qui ont permis qu'on théorise en fait certains endroits. La grande richesse, je trouve, de ton travail, c'est de tout nous donner et de toi en fait faire tes liens avec ce que tu vis, ce que tu vois auprès de personnes, parce que tu as interrogé beaucoup de personnes en amitié. C'est assez beau, ça devait être chouette de compiler ces interviews et de se dire, parce que s'il y a bien une chose magnifique, c'est quand on parle de nos amis.
Mais
enfin,
oui,
il y a des étincelles quand même hyper joyeuses, et de se rendre compte aussi des endroits de révolution que ça peut porter, parce que je ne l'ai pas dit, mais ton sous-titre, c'est des liens politiques, des lieux de résistance. Ces deux mots-là, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on considère l'amitié comme un engagement, comme un endroit révolutionnaire, comme un endroit politique. C'est pas anodin de juste juxtaposer
voilà,
ces deux mots. C'est-à-dire que vraiment, à la suite de cette lecture, on prend conscience qu'agir en amitié dans notre société, c'est déjà en fait un point de révolution, parce qu'on peut en effet agir sur ce qui se bouge.
Et donc,
sur plein de sphères, oui.
Oui, moi, je m'en suis vraiment rendu compte en allant rencontrer toutes les personnes qui, justement, décident de sortir du seul duo romantique pour construire leur vie, qui se disent « Bon, j'ai pas besoin d'attendre le prince charmant pour construire des projets de vie, ou je n'ai pas forcément nécessité à construire l'entièreté de mes projets de vie autour de mon partenaire romantique. » Eh bien, ces personnes qui décident de distribuer certaines tâches de la vie, certaines sphères de la vie plutôt avec des amis, en fait, dans ce qu'elles créent, dans ce qu'elles viennent défricher, j'y ai vu aussi des espaces qui permettaient souvent de réfléchir à beaucoup, beaucoup d'enjeux du siècle. C'est-à-dire, par exemple, autour de l'habitat, quand on sort de la seule famille nucléaire, du pavillon individuel, on peut parfois répondre à la crise du logement qui est extrêmement prégnante aujourd'hui. Donc ça a des intérêts économiques, ça a des intérêts écologiques aussi, de penser nos vies plutôt à une échelle amicale plutôt qu'à l'échelle du duo, puisque voilà, on sort encore une fois de ce modèle du pavillon individuel où chacun démultiplie ses équipements, sa consommation d'énergie, etc. Et il y a vraiment des effets qui sont notifiés dans des études de l'ajout de plusieurs personnes dans une maisonnée, comment ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre de chaque personne. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça permet aussi de réfléchir aux enjeux, par exemple, du vieillissement de la population. Quand on voit aujourd'hui comment nos sociétés sont vieillissantes et comment ça va devenir un enjeu extrêmement important, le grand âge, et comment déjà aujourd'hui, alors qu'on n'est pas encore au niveau dans plusieurs décennies en termes de proportion de personnes âgées dans la population, comment le modèle du grand âge a déjà énormément failli avec le scandale dans les EHPAD, avec la solitude grandissante de nos aînés, et bien pouvoir réfléchir à comment en fait on fait solidarité dans le grand âge, comment on peut en amont penser voilà, des manières d'organiser nos vieux jours à plusieurs, c'est quand même assez, assez essentiel. Et puis, moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappée, c'est les personnes qui repensent la parentalité autour de la question autour de l'amitié, qui sortent de l'unique couple, en fait, pour penser plutôt à une échelle amicale, le soin aux enfants. Donc, ce sont des personnes qui soit conçoivent des enfants entre amis, en coparentalité platonique, à un moment où, par exemple, arrivé la trentaine, on n'a pas de partenaire romantique et en fait, on ne veut pas passer à côté de ce projet, par exemple, de maternité qu'on pourrait avoir depuis longtemps, et où on se dit, mais en fait, est-ce que tel ami que j'adore, dont je sais qu'il est vraiment très attentif avec les enfants, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas créer un projet ensemble et sortir de la pression à trouver à tout prix quelqu'un, à enchaîner les dates, etc., pour trouver quelqu'un, quitte à trouver, à prendre un petit peu au hasard quelqu'un pour faire famille, ce qui est quand même dommage. Et puis aussi des personnes qui deviennent des soutiens, des piliers essentiels dans la parentalité, dans la maternité d'amis, et qui vraiment prennent au sérieux cette idée du fait qu'il faut tout un village autour d'un enfant pour l'élever. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement puissant, comment ça venait... interroger toutes ces sphères de la vie, finalement, de déplacer notre regard, de déplacer le curseur, de sortir de la seule focale de l'amour romantique.
Et c'est vrai que j'avais déjà entendu le principe, en fait, de politiser la colocation et d'arrêter de penser que c'était une évidence estudiantine, en fait, où, voilà, on se rend compte que oui, on vit à plusieurs, etc., mais qu'à partir d'un certain âge, en fait, la colocation devient vraiment un mode de vie qui est parfois questionné, en fait. Mais évidemment, tu nous proposes différents exemples, comme tu viens de le dire, avec des habitats partagés. Mais cet endroit-là de la colocation, c'est ça aussi. C'est-à-dire de se dire... parce que moi, quand j'entends habitat, parfois, j'entends peut-être plutôt campagne, maison, des choses un peu plus isolées malgré tout, mais en collectif. Même si c'est pas les exemples que tu nous proposes, mais je sais pas, le mot habitat il m'envoie ailleurs. Par contre, le truc de colocation en ville, des choses avec des espaces-temps peut-être plus rapides, c'est-à-dire qu'on se voit pas souvent, on a plein d'activités différentes, mais de se soigner en fait le fait du vivre ensemble. Et ça, je pense que une des choses qu'on va avoir par rapport à tous les chapitres dont tu as parlé déjà, donc l'habitat partagé, le vieillir ensemble, faire une autre forme de parentalité, c'est ça aussi, c'est de réfléchir à la façon dont on vit ensemble, dont on est ensemble. Et je me suis dit, en te lisant, je me suis arrêtée 5 minutes en me disant, mais est-ce qu'on pose vraiment des bases dans d'autres systèmes? Est-ce qu'on ne fait pas dans quelque chose de limite de naturel? C'est-à-dire comme si on n'était pas censé réfléchir à nos relations autres. Mais avec l'amitié, on a tendance à beaucoup plus en fait, poser les choses, essayer d'exprimer, de mettre... Bon, ben là, ça ne me va pas, mais par contre, on peut peut-être faire comme ça. Est-ce que par toutes les personnes que tu as interrogées, tu as remarqué qu'il y avait ce besoin de plus expliquer la relation, la diriger, essayer que tout le monde s'y retrouve, mettre des règles, même si... ce mot est encore une fois peut-être un petit peu trop étroit, mais en tout cas, de faire des sortes de conventions de vie ensemble.
Ça, c'est vrai que c'est ce qui est ressorti des personnes que j'ai interrogées et qui font un vrai... ce n'est pas un effort, mais qui font un vrai pas, en fait, pour penser leurs amitiés. Et in fine, quand on sort du modèle traditionnel qui nous est proposé pour construire nos vies, il faut évidemment beaucoup échanger sur la question des finances, par exemple, quand on est dans la question de l'habitat, qui paraît du coup beaucoup moins évidente, puisque, alors même que moi, je pense que c'est pas non plus évident dans le couple romantique, et on devrait aussi en parler dans le couple romantique, mais de facto, de sortir du modèle tout tracé, ça oblige les gens à échanger sur les différents aspects en fait de ce qu'ils veulent mettre en œuvre, et par exemple sur la parentalité, les personnes que j'ai interrogées qui font coparentalité platonique vont vraiment réfléchir énormément à comment ils veulent mettre en œuvre leur parentalité, ce qu'ils veulent transmettre, créer une charte, voilà, pour s'y retrouver, pour échanger autour de tout ça. Mais ça, c'est vraiment pour, je trouve, pour les personnes qui presque conscientisent l'amitié d'une manière dont on ne nous apprend pas à le faire en société. Parce que de manière générale, moi, je trouve plutôt que nos amitiés, ce sont des espaces qu'on ne nous apprend pas à travailler, dont on ne nous apprend pas à prendre soin, qu'on ne nous apprend pas ni à réparer, ni parfois à arrêter quand la relation doit s'arrêter. Et j'en veux pour preuve tous ces témoignages de personnes qui connaissent des deuils amicaux qui, en fait, ont pris la forme d'une forme de ghosting où la personne a un peu disparu de la vie de l'autre personne sans rien dire, sans mettre de point final, sans vraiment échanger sur la relation. Et je crois que ça, c'est assez emblématique de la manière dont on perçoit aujourd'hui nos amitiés comme des espaces qu'on n'a pas besoin de travailler, dans lesquels on peut se couler un peu, et puis si ça se délite, tant pis, laissons la chose se faire toute seule et tant pis. Alors que ça peut être extrêmement douloureux, en fait, de perdre une amitié quand on sait tout ce qu'en réalité on investit dans nos liens amicaux, ce qui est l'empreinte que ça peut avoir dans nos vies, notamment quand c'est des relations de très long terme. Et je trouve que du coup, on manque vraiment de représentation pour prendre soin de nos amitiés, pour nous apprendre justement à communiquer nos besoins, nos limites, formuler peut-être des projets, et puis savoir demander de l'aide, savoir recevoir de l'aide. Je trouve que voilà, on manque de narration, on manque peut-être de fiction aussi autour de tout ça, et j'espère que ça va bouger dans les années à venir.
Après, il n'est pas obligatoire d'avoir des relations d'amitié longues tout le temps. En fait, je pense qu'à un moment donné, on peut aussi se dire qu'on a vécu une très belle partie de notre vie avec une personne et qu'en effet, ça y est, en fait, nos chemins se sont séparés, mais que ça n'enlève pas toute la beauté du moment partagé. Parce que c'est vrai que parfois, il peut y avoir peut-être une sorte de petit coup de pression à faire des amitiés, des choses pour la vie. Mais parce que, comme tu dis, on manque de récits pluriels. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on nous dit souvent, c'est les amitiés d'enfance qui restent tout le temps, c'est l'ami qui nous lâche jamais, mais qui sert aussi pas mal de décompression du couple, en tout cas, dans toute la sphère hétéronormée, si on peut se permettre comme ça, il y a des schémas types. Après, un des grands chapitres de ton livre aussi, c'est un autre modèle d'amitié, sont les amitiés queer. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui décident en fait, de faire de leurs amitiés des familles choisies. Quand on réfléchit en fait, la place des amitiés dans ces communautés, alors qui est un mot qui est un peu rejeté par certaines personnes de ton livre, plutôt au profit de collectif, pour montrer un peu l'ouverture plutôt que quelque chose de refermé. Quand on pense en fait, à ça, quand on lit tous ces passages-là, on entend en fait, le besoin vital en fait, de ces amitiés.
Oui, et en particulier pour les personnes queer, je pense que les communautés queer ont été vraiment à l'avant-garde sur la revalorisation, sur le soin donné aux amitiés, par positionnement politique parfois, par créativité époustouflante, et puis aussi par nécessité, parce que les personnes queer sont des personnes qui très tôt expérimentent du rejet, des discriminations, qui de facto sont exclues du sacro-saint modèle de la famille hétéronormée, et qui donc souvent très jeunes doivent aller chercher ailleurs, en dehors des liens biologiques, des espaces pour des refuges, pour partager du soin, de la réassurance, partager les moments d'euphorie et puis les moments plus difficiles, et donc sont amenés justement à reconstruire autour d'eux des familles différentes qui tranchent parfois avec les familles biologiques qui souvent sont synonymes de violence. C'est vraiment des études qui montrent comment les violences que subissent les personnes LGBT au sein du cercle familial sont vraiment extrêmement prégnantes, et encore aujourd'hui, et vraiment parce qu'ils ont créé finalement de ces familles choisies, de ces nouveaux cercles électifs, les communautés queer ont aussi pavé un petit peu le chemin pour nous permettre, comme souvent en réalité sur plein d'autres évolutions, mais pour permettre à la société entière finalement d'avancer tel que c'est le cas aujourd'hui sur les amitiés. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner d'une certaine manière dans les sphères féministes notamment, mais je crois pas uniquement. Et oui, je pense qu'on leur doit beaucoup.
J'ai noté parce que tu vas vraiment en fait impliquer dans ton livre beaucoup d'autrices qui ont théorisé tout ça, qui ont participé à cette grande réflexion collective. Et c'est vrai que Anne Pauly, encore elle, mais on adore Anne Pauly, hein, je la cite toujours et souvent, parlait du fait que les amitiés, ces amis-là, en fait, qui nous sont si proches, nous permettent de montrer notre fantaisie. Elle parle de ça, voilà, du fait qu'on soit peut-être plus réel, plus nous-mêmes, ou qu'on se permette d'être complètement pas nous-mêmes, en fait, complètement autrement entre amis. Et Talma Desta, qu'on aime tout autant, dit « L'amitié donne tout le loisir de l'élasticité ».
Oui.
C'est beau.
Oui, ce sont des liens qui sont beaucoup moins scriptés, enfin qui sont beaucoup moins par rapport par exemple à l'amour romantique et au couple tel qu'on le pense aujourd'hui, qui est vraiment enserré dans des sortes de contrats figés où quand on se met en couple, la personne qu'on est à l'instant où on se met en couple est censée perdurer pendant des années, même si c'est pendant 20 ans, sinon c'est une sorte voilà d'accro dans le contrat. La personne peut nous dire, mais quand on s'est rencontrés, tu pensais pas comme ça, tu faisais pas comme ça. Chaque changement professionnel, personnel peut représenter une épreuve pour le couple. Je crois que c'est pas du tout le cas, finalement, en amitié, qui a beaucoup plus voilà, cette possibilité de redéfinir le cadre, finalement, de la relation avec cette élasticité, telle que le disait Tal. Et puis, ce sont les amitiés, je trouve, des endroits qui nous permettent de garder un certain droit à la métamorphose, un certain droit au mouvement, aussi parce que ce sont des liens où on n'a pas besoin d'être séduisant ou séduisante, d'être adéquat, et où voilà, on peut s'exprimer justement cette fantaisie dont parle Anne Pauly, cette futilité aussi, et encore une fois, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure de ces liens qui parfois servent un peu à rien, mais en fait, du coup, moi, je trouve ça assez puissant de servir à rien et puis juste, voilà, de passer du temps à jouer aux cartes en terrasse, manger une gaufre Nutella au soleil. Enfin, voilà, pourquoi pas ? Enfin, est-ce que c'est pas ça, finalement, aussi, qui crée nos liens humains et qui est extrêmement, qui peut être extrêmement puissant ? Et on gagnerait vraiment à aller voir, à aller explorer ce qui se joue dans nos amitiés, l'amour qui s'y partage et la forme d'amour qui s'y partage, aussi pour informer et pour guider tous nos autres liens d'amour dans toutes les sphères de nos vies, parce que cette élasticité qui s'expérimente dans l'amitié, ce soin aussi mutuel qui s'expérimente dans l'amitié, peut aussi nous permettre de repenser de manière plus libre, plus joyeuse, d'autres types de liens d'amour.
Et ce qu'on entend dans ce que tu dis, en fait, parce que, et c'est pour ça que je pense que de parler des amitiés, ça peut mettre déjà sur la voie, c'est qu'en fait, on n'a pas une personne en amitié, enfin, ou en tout cas, je le souhaite au plus grand nombre d'avoir une masse d'amitié autour de soi, parce qu'en fait, c'est là aussi où ça nous permet d'être différentes, en fait, à chaque endroit. C'est-à-dire qu'on peut avoir une amitié, comme tu le disais, avec qui on va au cinéma, une amitié avec qui on va manger des gaufres au soleil, une amitié avec qui on refait le monde, une autre amitié avec qui on part en vacances, une amitié... Et c'est tous ces endroits-là qui font, en fait, que toutes nos possibilités arrivent. Ce qui... Bon, en effet, si on continue de comparer est difficilement trouvable en une seule personne quand on nous vend le modèle de l'amour unique oui. et fusionnel, quoi.
Oui, oui, et pourtant, on attend encore aujourd'hui qu'une seule personne dans nos vies remplisse tout, donc que notre partenaire romantique soit à la fois la personne avec qui on habite, la personne avec qui on dort, notre partenaire sexuel, notre coparent, notre coach émotionnel, notre coach professionnel parfois, enfin bref. Tout ça dans une seule personne, moi je trouve que c'est quand même assez lourd à porter. Et justement, on gagnerait à cultiver tous ces petits endroits qui peuvent se déplacer aussi dans d'autres relations, qui peuvent se distribuer dans d'autres relations et réfléchir bah, avec qui est-ce qu'on part en vacances, pourquoi est-ce que ce serait forcément avec le conjoint, avec qui est-ce qu'on a envie d'habiter, est-ce que c'est tout à fait logique que ce soit avec le conjoint ou est-ce que ça pourrait être avec quelqu'un d'autre, avec qui bah, je vais boire un verre tel jour, avec qui je fais des enfants, même si les sphères conservatrices pousseraient des hauts cris de nous entendre dire qu'on peut faire des enfants en dehors de la famille nucléaire, qui est, je le rappelle quand même, une invention plutôt récente, même en Europe. Ça fait pas de mal de le redire. Donc aller cultiver un peu voilà, ce qui peut se distribuer partout. Et je crois que c'est à la fois hyper créatif et hyper, hyper joyeux. Enfin, c'est une manière de vivre nos vies qui peut-être un peu plus joyeuse, un peu plus fertile.
Ce qui m'a semblé fou, on fait tout un chemin théorique avec toi de toutes ces années, alors qui... Je ne veux pas laisser entendre que ça fait 1000 ans hein, qu'on est en train de parler des amitiés, parce que ce n'est pas le cas. Il y a eu pas mal de contenu, mais ça reste quand même assez récent. Je me suis dit, en fait, on a quand même vécu une énorme vague de révolution romantique. Et les amitiés, elles sont arrivées vraiment après. Comme si, en fait, encore une fois, même dans nos engagements, notre priorité, c'était d'abord, en fait, de révolutionner l'amour, en se disant que tout allait découler. Mais c'est peut-être, en effet, un certain problème de définition. C'est-à-dire que quand on dit amour, pif, sauf pour quelques personnes, mais on va penser couple fusionnel. Que, en vrai, bah, si on décloisonne, en fait, amour, et qu'on est plutôt sur un ressenti, un sentiment, des émotions, peut-être que ce sera plus facile, en fait, de le rendre plus fluide et adaptable à différents endroits de nos relations, en fait, et donc, évidemment, l'amitié, la famille, etc. Est-ce que est-ce que toi aussi, parce que t'as lu autant de livres que moi, t'as tout, voire plus, j'imagine qu'il y a eu des choses que j'ai même pas accès, des podcasts, des choses comme ça, est-ce que toi aussi, t'as eu ce petit moment de « mais attendez une seconde, les amis, elles devraient être dans la révolution romantique bien avant plein d'autres sujets, en fait ?»
Mais très clairement, et c'est aussi ce qui m'a poussée à faire cet ouvrage, c'est que moi, je suis du coup journaliste au Monde et je m'intéresse aux questions de jeunesse et beaucoup en fait à la vie intime dans les jeunes générations et voir un peu ce qui bouge autour de tout ça. Et c'est à partir de cette vigie-là que j'ai vu bouger des choses sur la question de l'amitié dans les entretiens que je pouvais faire par petites touches dans certains articles que je pouvais lire ou dans certains podcasts que je pouvais écouter. Mais encore une fois, c'était toujours par petites touches. Il n'y avait pas, c'était jamais le sujet principal. Des œuvres et des objets que je pouvais lire ou écouter. Et moi, quand j'ai commencé à interroger des personnes qui avaient envie justement de s'engager pleinement en amitié, je suis allée voir les ressources auxquelles on avait accès en France. Et moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose, quoi. Y compris dans les sphères, dans les essais et dans la pensée féministe. En tout cas, francophone, c'est quasi une page blanche, en fait. C'est vrai que c'est peut-être un peu en train de frémir en ce moment, mais quand j'ai commencé à faire l'ouvrage, c'était difficile pour moi de pouvoir reposer sur des textes à la fois féministes, à la fois aussi de sciences humaines et sociales, historiques, sociologiques, et qui étaient en fait vraiment absentes. Les textes sur lesquels je pouvais me reposer étaient souvent... datait souvent des années 70-80, généralement en anglais, jamais traduit en France, donc pas accessible à une grande partie du public français. Et je me suis dit que c'était complètement fou, en fait, sachant la place en réalité qu'occupent les amitiés dans nos trajectoires, dans nos vies intimes, que personne n'ait envie d'aller interroger, regarder ces liens-là. J'ai trouvé ça extrêmement significatif. Et donc, je voulais apporter ma petite pierre.
Grande pierre.
Pour... C'est gentil.
Après, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser, parce qu'on sait. On sait que l'invisibilisation, etc., il y a aussi un rôle, en fait, du patriarcat d'aller passer la balayette et dire « Mais non, 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 ça n'a pas existé, etc. » Parce que ce qui nous manque aussi, c'est des exemples, c'est des choses qui nous ont précédés, c'est des précédents, en fait. Des fois, pour penser les luttes de demain, c'est aussi bien de se dire, de se rendre compte qu'on n'est pas les premières à se poser des questions, qu'il y a déjà eu des choses avant nous, etc. Tu fais tout un travail aussi historique de ça, d'aller un petit peu voir, de nous rappeler, en fait, la place des amitiés féminines, n'est-ce pas, dans l'histoire. Mais tu vas aussi questionner des amis de longue, longue date. Alors, je pense à Michel Perrault et Mona Ozou, qui ont vraiment un... Enfin, au final, elles ont vécu un long, long temps ensemble, avec des désaccords, avec des espaces-temps différents, etc. Et je me dis, en fait, toutes ces histoires d'amitié dont on n'a pas de traces, mais qui reviennent petit à petit. Il y a encore des correspondances qui viennent d'être publiées, des choses, en fait, qu'on, de différentes autrices, de personnes inconnues ou tout ça. Mais en tout cas, je me dis... Peut-être que ça a été pensé, peut-être qu'il y a déjà eu avant nous, évidemment, toute cette vague-là, mais qu'encore une fois, en fait, c'était menaçant, en fait, de les faire exister, ces textes-là.
Et puis, au-delà des textes, je crois, dans la pratique, en fait, tout simplement, les amitiés, elles ont toujours été là, y compris pour les femmes, bien qu'on ait longtemps souligné et asséné le fait que les femmes étaient biologiquement incapables d'amitié, comme l'ont fait de nombreux intellectuels dans les siècles passés. En fait, même la discipline historique en elle-même a vraiment effacé les liens d'amitié, ne s'y est pas du tout intéressée. On a quelques traces, c'est vrai, des amitiés masculines, des espaces de sociabilité masculines et de grands duos mythologiques comme Achille et Patrocle, de grands duos philosophiques comme Montaigne et la Boétie, par exemple. Mais pour ce qui est des amitiés féminines, en tout cas, ça serait, l'histoire se résume à une quasi-page blanche. Donc lui, on a vraiment une élimination... de toutes nos sources de première main, en fait, finalement, sur les sociabilités. Et c'est vraiment dommage, parce que ça nous empêche de penser, en fait, la place que les amitiés ont pu occuper dans la vie intime, mais aussi dans la vie politique. Et notamment, dans les sphères féministes, et dans ce que ça a pu apporter dans les luttes féministes, ces liens d'amitié qui, en fait, en réalité, ont été extrêmement importants. Parce qu'ils ont... contribué notamment à beaucoup de femmes, enfin à l'entrée en féminisme de beaucoup de femmes, qu'ils ont permis aussi d'une certaine manière la longévité de certaines communautés, de certains collectifs politiques et féministes. Et donc, moi, ça m'a étonnée quand même que ça ait été aussi peu souligné finalement.
Des fois, je me dis que c'est vraiment parce que c'est menaçant que ça ait. Oui. Tu vois, il y a un truc de fait exprès, mais bon, je suis peut-être.
Mais que les espaces féministes se soient aussi peu intéressés à leur propre histoire, finalement, pardon, de l'amitié féministe. Mais pour ce qui est de l'espace social en général, il a tout intérêt, enfin, le système a tout intérêt à évincer ces liens d'amitié qui sont justement, puisqu'ils ne sont bornés par aucune institution, peuvent se faire aussi... beaucoup plus libre, en fait, d'une certaine manière, se jouer en marge de certaines normes et donc questionner ces normes-là.
Oui, c'est ça, et puis s'en affranchir, carrément même. C'était intéressant de mettre en rapport amitié et sororité. Parce que, alors, il y a eu l'arrivée du mot sororité, grâce à notamment Chloé Delhomme et bien d'autres autrices formidables. Et il y a eu quelque chose... je sais pas, on a commencé à dire oui, enfin, sororité, c'est un peu galvaudé. Enfin, je sais pas, des fois, plus on entend des mots, moins on les aime. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est encore un truc à déconstruire, je trouve. Ouais. Parce que, en fait, moi, je trouve que c'est très beau, en fait, la sororité, dans ce sens où, en fait, on n'est pas obligé d'être amis, pour le coup, avec tout le monde. Mais en tout cas, on peut avoir ce lien-là de confiance, de faire attention les unes aux autres, aussi dans l'espace public, par exemple, ou, ben voilà, dans ce principe-là des copines de lutte, en fait, soror de lutte, c'est pas mal aussi. On n'a pas besoin de s'aimer que pour avancer ensemble, que pour faire des mouvements, aller en manif, s'entraider, s'écouter, se croire, etc. Et c'est bien que ça fasse partie, en fait, aussi de la constellation, comme tu disais, des amitiés, ces endroits de sororité.
Oui, parce que sororité-amitié, c'est pas exactement la même chose, mais ça peut se recouper à certains endroits. Et malgré tout, aller rechercher aussi peut-être dans nos espaces d'amitié féminine notamment ce qui s'y partage de soins et de care, de ce travail de care qui est extrêmement politique, et pouvoir le déplacer aussi dans d'autres endroits qui ne seraient pas forcément des amitiés mais qui peuvent être des relations de sororité par exemple, je crois que c'est aussi intéressant, et c'est aussi se permettre d'offrir aux femmes des espaces où elles peuvent aussi être receveuses finalement de ce soin qu'elles passent généralement la plupart du temps à prodiguer sans tellement beaucoup de rétribution, à la fois dans la famille, dans le couple, mais aussi dans la sphère professionnelle, hein, parce que ce sont beaucoup les femmes qui tiennent les métiers du care dans nos sociétés. Et donc oui, je crois qu'il peut y avoir des endroits de connexion en fait finalement entre tous ces concepts-là, même s'ils ne se recoupent pas tout le temps de manière pleine et entière, quoi.
En tout cas, ce qui est hyper agréable, quels que soient les endroits où on pense ces amitiés, c'est que c'est surtout un grand souhait de douceur.
Oui.
N'est-ce pas ? Et ça fait du bien quand
même. Je crois qu'on a le droit quand même un petit peu à la douceur en ce moment. Ça fait pas de mal. Et c'est même presque... Est-ce que ce serait pas un peu politique quand même, la douceur ? Dans un monde qui nous demande à la fois d'être tout le temps hyper productif, hyper dans la consommation, hyper aussi tout le temps à courir partout avec un temps hyper pressé. Et puis dans un monde qui est aussi de plus en plus violent, où les remous vont être en réalité de plus en plus nombreux dans les décennies à venir. On aura besoin de ces espaces de douceur, de ces endroits multiples sur lesquels venir à la fois se réfugier, récupérer des forces, et puis construire à partir de ces forces-là qui auront été régénérées dans les espaces de douceur et de soins que sont justement nos amitiés.
Ah oui, carrément. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Alice.
Allons-y.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Alice Rebaud à l'occasion de la publication de son ouvrage « Nos puissantes amitiés » aux éditions La Découverte. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec La Franchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com